Alors, do you speak English? Yes. Do you speak in tongues? Ah, yes. Il y en a un qui l'a dit. Et lui, c'est vrai. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, tongue. G-U-E-S. Hein. On va dire que dans une église internationale, ça passerait. Tongue. Do you speak in tongues? Ah, je confesse que le titre est un peu provocateur. Mais mon but, cependant, n'est pas de créer une polémique parmi les chrétiens. En fait, j'ai plusieurs amis pentecôtistes et charismatiques que je respecte profondément et qui sont loin devant moi spirituellement. Ils m'invitent d'ailleurs encore à enseigner dans leurs églises. Il y a 15 jours, j'ai prêché dans une église charismatique sur Dijon. Et donc, mon objectif ce matin, c'est pas de me mettre à dos mes frères, ni de trancher définitivement la question du parler en langue, mais de donner la perspective de notre Église, de ce que nous croyons et enseignons ici à l'EIG. Personnellement, je n'aurais pas de compte à rendre pour les autres chrétiens et églises qui enseignent différemment sur ce sujet. Par contre, j'en aurais pour mon enseignement, pour les brebis que le Seigneur m'a confiées. Hébreux 13, 17 le dit très clairement. Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants. Et Hébreux 13, 17 dit qu'on aura des comptes à rendre, mais pour nos brebis, donc pour vous qui êtes ici. C'est pour ça que les transmissions sur YouTube, et on salue nos amis qui nous regardent en streaming, elles ont ces limites, c'est qu'en fait, elles dépassent largement le cadre de cette assemblée. Et donc là, je m'engage dans ce message pour mon assemblée, pour mes brebis, surtout les membres de cette communauté, d'accord ? Parce que j'aurai des comptes à rendre pour vous, pour votre âme. Et si j'ai dévié des Écritures, eh bien, le Seigneur, j'aurai des comptes à lui rendre. Donc, j'en aurai à vous rendre là, ici-bas, et plus tard, lorsque je serai face à Jésus. Cela dit, ce n'est pas parce que tous les chrétiens évangéliques ne sont pas alignés sur certains aspects de la doctrine biblique que nous ne devons pas avoir de conviction. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ce que je dis là. Parce que ce que j'observe aujourd'hui, c'est « Ah, comme les chrétiens ne sont pas d'accord sur ce sujet, moi j'ai pas d'avis. » Ça, mon ami, c'est très très moyen. C'est ce qu'on appelle les chrétiens qui vont se laisser embarquer à tout vent de doctrine. C'est le dernier qui parle qui a raison. Il faut éviter à tout prix ça. On peut avoir des convictions, mais des convictions ne sont pas forcément des certitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir des convictions parce qu'on doit avoir une ligne de conduite. Et puis nos convictions, parfois, elles peuvent bouger. Elles vont s'affiner avec le temps. Et ma théologie s'affine aussi avec le temps, comme la vôtre. Donc, on n'est pas figé dans l'histoire. Mais entre affiner et ne pas avoir d'avis, vous voyez, il y a quand même un monde. Donc, avec les anciens, nous avons des convictions sur ce sujet et nous les assumons maintenant et les assumerons lorsque nous nous retrouverons devant notre Seigneur. Donc, je ne prétends ni avoir tout compris, ni détenir toute la vérité sur cette question, mais je vais appliquer les mêmes règles d'interprétation que j'applique lorsque je prêche sur d'autres textes de la Bible, à savoir, et c'est là où je vais vous mettre les règles, ici. La première de ces règles, c'est que Dieu et la Bible ont toujours raison. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec cette règle ? Ça signifie quoi ? Ça signifie que mon expérience ou celle d'autres croyants est moins importante que ce que les Écritures enseignent. Il faut qu'on soit convaincu de ça. Vous vous souvenez comment Jésus a répondu aux manigances du diable, aux tentations du diable ? Comment il a répondu ? C'est un message qu'on a entendu il n'y a pas longtemps ? Il est écrit. En fait, Jésus avait la possibilité de faire des miracles, de répondre au diable, de le prouver par l'expérience qu'il était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a brandi sa divinité et sa capacité à faire des miracles ? Absolument pas. Il a repris l'Écriture. Ça, c'est l'arme ultime et l'arme fatale. Quelque part, c'est ce qui doit nous rassembler, les amis, l'Écriture. Ok, tu as pratiqué des choses dans ton passé, ou tu les pratiques peut-être actuellement. Eh bien, regardons ensemble dans l'Écriture, et c'est ce qu'on veut toujours faire. Donc ça, c'est la première règle. Notre expérience, elle passe après ce que disent les Écritures. La deuxième règle, c'est que le livre des Actes est un récit narratif. Et quand on dit narratif, ça signifie quoi ? Ben, ça signifie que c'est une histoire qui a été racontée. C'est donc un instantané, une sorte de selfie qui explique ce qui s'est réellement passé à un moment donné dans le christianisme. Mais ce n'est pas parce que des chrétiens ont vécu certaines choses dans l'histoire que nous devons forcément les reproduire. Vous savez, si vous regardez un peu l'actualité chrétienne, chaque année, des personnes perdent la vie en essayant d'imiter littéralement certains récits bibliques. Tenter de jeûner 40 jours sans nourriture ni eau, comme Jésus en Matthieu 4. Essayez, vous allez voir. Ça, il y en a peu qui le font, hein. Par contre, sauter dans un enclos avec des lions pour faire comme Daniel, là, il y en a qui l'ont fait il n'y a pas si longtemps. Et devinez quoi ? Ils se sont fait bouffer. Marcher sur l'eau comme Jésus. Chaque année, il y en a un qui se noie. Bien sûr, ils ne savent pas nager en plus. Si seulement. Non, non. Prendre des serpents venimeux, boire des boissons mortelles. Il y en a qui sont encore aux urgences. Et d'autres dans les morgues. Vous voyez, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible qu'on doit forcément le reproduire. Ce n'est pas parce que ça s'est passé à un moment dans l'histoire que nous, on doit reproduire ces choses. Il faut que ce soit clair. Ce qui est narratif est un descriptif. On décrit une situation. Ce n'est pas prescriptif, ce n'est pas des commandements. Sauf, bien sûr, parfois dans les textes narratifs, on va avoir parfois des commandements. Mais rarement. C'est rarement le cas dans le livre des Actes. Donc ne confondez pas, s'il vous plaît, ce qui est descriptif avec ce qui est prescriptif. Hein ? Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même catégorie. En fait, ce que vous devez chercher comme prescription, c'est dans les épîtres pastorales et aussi générales. Donc les commandements qui ont été adressés aux croyants dans les églises ou parfois aux pasteurs qui doivent enseigner leurs églises, voyez. Mais même là, il faut regarder le troisième critère, c'est le contexte. Parce que parfois, on va trouver dans les Corinthiens, je vous permets de vous marier, mais je ne vous conseille pas de vous marier. Par exemple, 1 Corinthiens 7, à cause des calamités présentes, restez dans votre condition, restez célibataire comme moi. Paul le dit clairement. Et en 1 Timothée 5, il va dire l'inverse. Pas les mêmes circonstances. Mariez-vous, qui disait. Que les veuves se marient. Ok, c'est clair. Sauf que, vous voyez, c'est le contexte qui est différent. Et donc, le contexte, les amis, vous connaissez cet adage, tout texte qui est pris hors du contexte est un prétexte. Donc quand on veut justifier une position, souvent on utilise n'importe quel verset et on va dire « Ah, regarde, la Bible, elle dit ça. » Qu'est-ce qu'elle dit dans ce contexte-là ? Et là, on va pouvoir tirer des principes, mais pas avant d'avoir examiné très sérieusement le contexte. Les contextes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. C'est bon, maintenant qu'on a fixé les règles, on va plonger dans un texte qui est polémique, disons-le. Et on a déjà abordé le sujet du parler en langue, donc je ne vais pas refaire tout sur le parler en langue, je vais faire quelques bribes de rappel à certains moments, mais je vous renvoie au message sur acte 2 et au message sur acte chapitre 10, où on a déjà abordé, et à chaque fois j'aborde un aspect, là je vais en aborder un nouveau, c'est la seconde expérience. Lisons ensemble ce texte, si vous avez une Bible, c'est dans le livre des Actes au chapitre 19. Sinon, vous pouvez suivre ici avec moi. C'est le texte de la colombe. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un esprit. » Il dit « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ben, il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Et c'est là la fin de la lecture de la parole, 100% inspirée. Donc maintenant, eh bien, je vais donner quelques explications sur le texte. Si vous vous souvenez bien, lors du dernier message, vers la fin de son deuxième voyage missionnaire, c'est au chapitre 18, Paul est passé furtivement par la ville d'Éphèse. Il a visité les Juifs de la synagogue et malgré le fait que ceux-ci désiraient s'entretenir avec lui, il les a quittés parce qu'il voulait se rendre à Jérusalem. Mais avant de partir, il avait fait cette promesse, c'est au chapitre 18, verset 21, il leur dit « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut ». Hein, vous vous souvenez, si Dieu le veut, eh ben, Dieu l'a voulu parce que l'apôtre Paul est revenu. Paul a tenu sa promesse. Quelques mois plus tard, depuis Antioche, donc son église d'envoi, je vous ai mis ici la carte, le troisième voyage missionnaire, c'est ce que vous trouvez ici en vert, d'accord ? Les petites légendes ici en vert, vous le trouvez là. Donc il est à Antioche et il va aller visiter ici toutes les églises d'Asie. Tout ça, c'est l'Asie mineure. Et donc, il va visiter ces églises pour atterrir ici, à Éphèse. Vous voyez la ville d'Éphèse, là. Et il ne va pas faire une petite halte cette fois-ci, parce que c'est la ville dans laquelle il va rester le plus longtemps. Il va rester 3 années à Éphèse. Éphèse, ça va être une ville phare où on va implanter de nombreuses églises, où vont passer des grands serviteurs de Dieu. En fait, la première des choses que faisait Paul quand il arrivait dans une église, dans une ville, pardon, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait dans les synagogues ou dans les églises. Là, dans son troisième voyage missionnaire, il avait déjà visité les synagogues, il avait annoncé l'évangile, certains croyants s'étaient convertis et donc ils s'étaient déjà formés en église. La plupart du temps, c'était dans les églises de maison, mais bien souvent, ils continuaient d'aller à la synagogue. Et il se trouve que là, Paul, il revient à Éphèse, mais il n'a même pas le temps. Il n'a même pas le temps. On dirait que c'est quelque part, ça lui tombe dessus. Il rencontre des disciples. C'est ce que dit le texte, en tout cas. Mince, j'ai avancé trop vite. Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse, et là, il rencontra quelques disciples. Donc, on ne le voit pas à la synagogue, il rencontre quelques disciples. Donc, vous voyez, on est face à un rendez-vous divin ici. Il n'a rien planifié, il rencontre des gens. Et qu'est-ce que fait un évangéliste lorsqu'il rencontre des gens ? À votre avis ? Avant d'évangéliser, alors oui, évangéliser, il va le faire, ça c'est évident, mais juste avant, qu'est-ce qu'on fait ? Il s'intéresse. L'apôtre Paul était un évangéliste. Il aimait les Juifs, il s'intéressait, il aimait les Grecs, il aimait tout le monde en fait. Il s'intéressait à eux, il va s'intéresser à leur culture. On lit dans le livre des Actes au chapitre 17, c'est très clair. Il s'intéresse à leurs croyances, à leurs valeurs et à leur âme en fait. Tous ces éléments-là, à leur contexte, eh bien c'est parce qu'il s'intéresse à leur âme, à leur avenir. Et c'est ce qu'il fait ici, il va s'intéresser au contenu de leur foi, parce qu'ils se disent disciples. Ok, pas de problème, vous avez rencontré probablement des gens. Moi, j'en ai rencontré une fois dans un salon bio. Et il y avait dans ce salon bio, alors je ne sais pas si vous connaissez les salons bio, mais il y a beaucoup de choses ésotériques. Bon, il se trouve que là, il y avait un salon de massage et c'était gratuit. Donc, moi j'arrive et puis on était toute une équipe là, on servait sur ce salon et on s'est dit tiens, on va se faire masser. Puis je m'assieds dans la file d'attente et puis là je commence à discuter avec les kinés qui étaient là, enfin des kinés ou des gens qui faisaient des massages. Et puis je discute avec eux et puis au bout de quelques instants, au bout de quelques minutes de discussion, ils me parlent de Jésus. Je dis ouais, super, Jésus. Et en fait, Jésus était un canal parmi d'autres, vous voyez ? Ah oui, Jésus, il est super, Jésus est amour. Ok, c'est intéressant. Sauf que après, je devais passer sur la petite table et me faire masser. Mais dans sa tête, il y avait aussi des incantations. Et quand j'ai compris ce qu'il y avait dans sa tête et que ce n'était pas du christianisme, hein, là on est clairement dans l'ésotérisme, alors j'aurais dit, bah, écoutez, je me ferai peut-être masser une autre fois. Et donc, je n'ai pas voulu qu'on m'impose les mains, vous voyez ? Donc j'ai refusé. Est-ce que je craignais quelque chose ? Je ne pense pas, en fait. Mais je ne voulais pas mettre mes doigts là-dedans, vous voyez ? Et donc j'ai refusé que cette personne me touche. C'est pas parce qu'on parle de Jésus, les amis, ou même qu'on parle du christianisme, ou qu'on est disciple de quelqu'un, que c'est véritable, que c'est authentique. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va questionner le contenu de leur foi. Alors on n'a qu'un résumé ici, hein. Honnêtement, Luc, c'est pas son objectif de faire un exposé de ce que Paul a dit. Lui, il veut raconter toute une histoire, montrer que le christianisme a évolué, a grandi malgré la persécution. Ça, c'est le but du livre des Actes. Donc lui, il raconte les choses et puis parfois, ben, on aimerait rien avoir beaucoup plus de détails. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, il va leur poser une question. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ? Et ils lui répondirent, bah, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et il dit, bah alors, mais quel baptême avez-vous donc reçu ? Ben, on a reçu le baptême de Jean. Et vous voyez, en deux questions, Paul sait en gros à qui il a affaire. Luc, il identifie ces 12 personnes comme des disciples. Et des disciples, c'est des gens qui suivent un maître, en fait, hein, tout simplement. Des apprentis, c'est ce que signifie le terme disciple. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est disciple de Jésus. Hein ? Il y a des disciples des pharisiens. Il y avait aussi des disciples qui suivaient Jésus, mais qui n'étaient pas des vrais disciples. On est d'accord ? Quand Jésus se retourne et dit « Oui, mais moi je sais pourquoi vous me suivez, c'est parce que je vous donne à manger. » On les appelle, vous regardez le texte, c'est ça, ça s'appelle des disciples, des gens qui suivent. Voyez ? Mais ça ne fait pas de nous des croyants authentiques. Et en fait, à cette époque, il n'était pas rare de voir de petites communautés de disciples suivre l'enseignement d'un maître. Luc précise qu'ils étaient 12 et qu'ils étaient disciples de Jean. Alors là, il faut comprendre Jean-Baptiste, d'accord ? Et visiblement, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors là, on est en mesure de se poser une question. Soit ils ont mal été informés, soit c'était de mauvais disciples, parce qu'ils n'ont pas retenu des éléments quand même de son message. Parce que Jean, il avait clairement parlé du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Luc, chapitre 3, verset 16, c'est Jean-Baptiste qui dit, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Hein, » donc c'était le baptême de la repentance, « Je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales, lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et là, quand on leur parle d'Esprit Saint, ils disent « jamais entendu parler ». Ça paraît étrange quand même pour des disciples de Jean, ça fait partie du cœur de son message. Donc soit ils ont pas, c'était des mauvais élèves, hein. Ça peut, hein. On ne retient pas tout dans les messages, les prédications. Des fois on est surpris même hein, quand on discute avec nos brebis, « Ah d'accord, tu as retenu un dixième de ce que j'ai dit, bon dixième ce serait bien, mais des fois ce n'est pas le cas ». Et donc, on va faire une interro. D'ailleurs, j'ai pris la confession de foi et vous allez devoir la décliner. Tous ceux qui ont signé. Ah, c'est vache, là. Hein. Mais non, je ne vais pas faire ça. En fait, de toute évidence, ces disciples avaient une connaissance très partielle de l'enseignement de Jean-Baptiste. Mais cette question-là, elle soulève un autre problème. En fait, quand il a vu ces gens, quand vous rencontrez des chrétiens, honnêtement, ça vous est déjà arrivé, ça match très rapidement ou ça match pas du tout. Hein, je sais pas si vous vous sentez connecté. Tiens, lui, c'est marrant. Ça fait 3 minutes que je l'ai rencontré. Hein, vous allez dans un colloque à Évangile 21 ou je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à discuter avec lui. En 3 minutes, vous avez l'impression que vous le connaissez depuis 20 ans. Ça vous a déjà fait cette... Pas parce que vous êtes connecté par l'esprit, mais il y a toutes les références bibliques qui sont là. Vous voyez des fruits aussi dans sa vie. Et donc là, quand on pose cette question, est-ce que vous avez vraiment reçu l'esprit ? quelque part, il est en train de remettre en question le fruit de l'esprit dans leur vie. Vous voyez, ils ne voyaient rien. Il y a Alfred Kuhn qui dit « L'esprit conduit les croyants à former un seul corps. » Ok, on est d'accord, c'est dans l'Écriture, Galates 3, Éphésiens 4. « Pourquoi ce groupe restait-il en marge des autres frères d'Éphèse ?» Dans les récits de conversion qui précèdent, Luc note ses fruits de la vie nouvelle. Premier fruit, la joie. Deuxième, l'amour des frères. Et troisième, le désir de communion. Paul a certainement dû constater quelques situations anormales. Et voilà. En fait, ces gens, ils vivaient comment ? Reclus. 12 personnes qui vivaient entre eux. Ils ne cherchaient pas la communion avec les autres, ils attendaient le Messie. Ils étaient toujours dans l'attente, en fait. Ils étaient à part. À votre avis, est-ce qu'ils étaient joyeux ? Un chrétien, honnêtement, ce matin, vous chantiez, je me suis retourné à un moment donné, j'ai regardé vos sourires. On parle du salut, on parle de la grâce et ça réjouit nos cœurs. D'accord ? Et c'est ce que devrait procurer le salut. En fait, l'amour, la joie, la paix, la patience, le AJPPBFDM, ça devrait au moins se manifester quelque part. Si les chrétiens chantent comme ça, c'est la misère, les amis. Alors oui, ça peut arriver que vous ayez un passage à vide. Hein. Je mets pas ça de... Ça peut arriver. Mais normalement, quand vous songez au ciel, quand vous songez à votre Seigneur, vous avez la banane. La joie. Eh bien, ses disciples vivaient dans l'austérité. Ils devaient manger comme Jean, peut-être des sauterelles et du miel. C'était un peu frugal, on va dire. Et probablement qu'ils n'étaient pas très joyeux parce qu'ils étaient dans l'attente. En fait, ils attendaient ce Messie. Ils n'avaient même pas entendu parler de Jésus, en fait. Donc, des disciples de Jean qui étaient venus à la repentance. Mais la repentance, les amis, n'est pas suffisante pour être sauvé. La repentance n'est pas suffisante pour être sauvé. En fait, ils avaient eu le baptême de Jean. C'était un baptême, un signe de purification. On plongeait dans l'eau, hein, vous voyez, c'était un rituel. Donc, c'était une préparation. Le baptême de Jean préparait le cœur des disciples à recevoir le Messie et la bonne nouvelle du Messie. D'accord ? Et bien sûr, le Saint-Esprit. Donc, c'était une sorte d'apéro. C'était pour ouvrir l'appétit spirituel des Juifs, en fait. Le baptême de repentance était là. Il ouvrait l'appétit des Juifs. Quand vous prenez un apéritif, ça vous donne envie de manger, mais vous attendez le repas derrière. On est d'accord ? Et en fait, on a des sortes de miettes, des petites cacahuètes, et ensuite, il y a le vrai pain qui arrive, le pain de vie. C'est pour que Jésus les rassasie complètement. Donc, ils n'étaient pas vraiment nourris par le baptême de repentance. Et le baptême de repentance était là pour leur faire constater que leur cœur avait besoin d'un sauveur. Le baptême de repentance, c'était reconnaître qu'on était coupable devant Dieu, que nos œuvres n'étaient pas suffisantes pour aller au ciel. Et c'était un message dur. Parce que Jean, il appuyait où ça fait mal. Et les Juifs étaient comme nous. Ils étaient imparfaits. Mais le fait de reconnaître notre imperfection, le fait de reconnaître notre péché ou nos manquements, les amis, ça ne fait pas de nous des croyants. C'est juste le bon début. Mais il faut aller plus loin. Et qu'est-ce qui manque à ça ? Qu'est-ce qui manque à la repentance ? L'essentiel, c'est quoi ? La foi. La foi en qui ? En Jésus. Et c'est ça que va corriger notre ami Paul. Regardez le verset 4, et c'est le deuxième point. Paul corrige le contenu de la foi des disciples. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous voyez, il précise, parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas Jésus. Donc, vous imaginez, nous, on se dit, waouh, tout le monde connaissait Jésus. Ben non, c'était une sorte de secte, hein, disons-le. Ses disciples avaient suivi l'enseignement de Jean-Baptiste très partiellement et ils s'étaient isolés du monde. Et donc, ils n'avaient même pas entendu parler de Jésus. Vous imaginez ça ? On est à peu près 25 ans après la Pentecôte là. Donc ils sont restés pendant 25 ans en dehors de tout système social. Et visiblement, ils ignoraient cet élément clé. Et ici, il est résumé en un mot. Vous avez vu, hein, parce que le reste, ils connaissaient. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, effectivement. Il annonçait la venue du Messie. Et lui, il précise, c'est-à-dire en Jésus. En fait, il leur manquait simplement la base, l'essentiel. Ils avaient l'apéro, mais il leur manquait la base. Il leur manquait Jésus. Parce que sans Jésus, mes amis, pas de salut possible. Pas de rémission des péchés, pas de vie éternelle. Et le Nouveau Testament est très clair à ce sujet. Jésus est la porte du ciel, Jean 10, verset 9. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le royaume du Père. Il faut passer par la porte. Et c'est Jésus qui est la porte. Donc vous voyez, on ne peut faire que passer par Jésus. La Bible dit encore que Jésus est le seul intermédiaire, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne peut venir au Père sans Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la résurrection, il est la vie. En fait, tout passe par Jésus. On ne peut pas passer à côté de Jésus. Si on se dit croyant, mais que Jésus n'est pas dans l'équation, les amis, c'est qu'on ne l'est pas. On ne l'est pas encore. En tout cas, on n'est pas sauvé comme la Bible le décrit. En fait, tout ce que j'ai dit, toutes ces vérités-là, ses disciples les ignoraient. Ils en étaient restés au message de repentance. Et en y réfléchissant, il y a une histoire qui m'est revenue en mémoire. Une histoire qui est bien plus récente, qui s'est déroulée après la Seconde Guerre mondiale, quelque part dans les îles du sud de l'océan Pacifique. Là-bas, il y avait des soldats japonais qui ont été retrouvés, alors qu'ils se cachaient dans des cavernes. Pendant des années, ils ont vécu dans l'ombre, en alerte constante, coupés du monde, sans le moindre moyen de communication. Ils ignoraient une information capitale. En fait, ils pensaient que la guerre faisait encore rage. Alors ils se tairaient, évitant tout contact, survivant dans la peur et dans la privation. Ça nous fait vraiment penser à ses disciples. Et cela n'a pas duré quelques semaines, ni quelques mois. Vous savez combien de temps ça a duré pour ces soldats ? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. 20 ans à lutter contre un ennemi déjà vaincu. Puis un jour, tout a changé, parce qu'il y a des habitants des îles qui sont venus leur annoncer une nouvelle qu'ils n'auraient jamais imaginée. La guerre est terminée, la paix a été déclarée. Et c'est qu'à partir de ce jour-là que ces hommes ont pu relâcher leur vigilance, sortir de l'ombre et retrouver une vie normale quelque part. Mais il leur manquait quelque chose d'essentiel. Il y a un homme qui s'appelle Hiro Onoda. Alors lui, il a battu tous les records. C'est la guerre fin décembre, en décembre 1944. Donc c'était juste avant la fin de la guerre. Il a été envoyé sur une île dans les Philippines, une toute petite île. Il s'est retrouvé tout seul comme soldat et on lui a dit « tu vas garder cette île ». Cet homme a été récupéré en 1974 avec son costume, un peu usé j'imagine. Mais vous imaginez, pendant 30 ans, il a vécu comme s'il était en guerre. C'est sur le web, vous pouvez trouver CBS News qui raconte cet événement-là. J'ai l'impression que ses disciples vivaient quelque chose de semblable. Ils ne savaient pas encore ce que Jésus avait accompli à la croix pour eux. Ils continuaient de vivre dans l'attente alors que la victoire avait déjà été remportée. Tant qu'ils ignoraient cette vérité, ils ne pouvaient pas se réjouir pleinement car il leur manquait cette donnée essentielle. En fait, Luc n'entre pas dans les détails, mais nous savons par les épîtres qui sont, elles, normatives, que le contenu que Paul a dû donner à ses 12 disciples. Et je vous le livre ici, hein, parce qu'il n'est pas caché, mais Paul nous donne en fait les éléments clés de l'évangile. Il dit Jésus. Mais de quel Jésus en parle? Et là, regardez ce qu'il dit en Romains chapitre 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Au regard de ce texte, mes amis, on voit que la repentance n'est pas suffisante pour être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il donne des conditions ici. D'abord, il faut accepter la vérité de l'incarnation, selon laquelle Jésus, donc le bébé de l'étable de Bethléem, hein, si vous en êtes resté là, eh bien ce bébé-là, c'est le Seigneur de l'univers, le Seigneur vivant et glorieux, le Seigneur, l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est Jésus. C'est ce qu'il dit ici, le Seigneur Jésus, le Kurios. Ensuite, il faut accepter la vérité de sa résurrection corporelle. Vous pouvez croire en la résurrection. Hein. Je connais même des pasteurs qui croient en la résurrection, mais comme quelque chose d'hypothétique, pas comme une vraie résurrection corporelle. Mais mes amis, si Jésus n'est pas ressuscité corporellement, alors notre foi est vaine. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Parce que, en fait, la résurrection est la preuve que Jésus est vivant et qu'il a été approuvé par le Père. Et donc, c'est un fait essentiel. On doit croire que Jésus est mort à la croix pour nous. On doit confesser ce Jésus-là, ce Dieu, en fait, incarné, et en même temps, croire qu'il est mort et ressuscité pour nous. Si on ne croit pas qu'il est ressuscité, alors, on est en train de dire, bah, c'est peut-être une solution parmi tant d'autres. Non, il n'y en a qu'un qui est ressuscité, c'est Jésus. Et c'est pour ça que la résurrection est essentielle et que ça fait partie intégrante du salut et de notre confession. On doit donc accepter cette vérité de la résurrection. Et enfin, on doit croire avec notre cœur, c'est-à-dire avec notre intelligence, nos sentiments et notre volonté. La foi qui sauve, elle doit s'approprier personnellement la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment vital, les amis. Et peut-être que vous ne l'avez pas fait ce matin, peut-être que vous connaissez Jésus, peut-être que vous en avez entendu parler dans les écoles du dimanche, et je sais qu'il y a des ados avec nous ce matin. Mais tu peux connaître des choses sur Jésus, mais pas connaître Jésus. Et là, il te dit, ok, tu dois vraiment intégrer Jésus, croire qu'il est vraiment mort pour toi, pour tes péchés, et qu'il est ressuscité aussi pour t'offrir la vie éternelle et te montrer qu'il a vaincu la mort et le péché. Vous voyez, ce sont des choses essentielles. Voilà donc le message que Paul a dû leur exposer, même si ce n'est pas dans le texte, c'est quand même le message de l'apôtre Paul qui va écrire. Mais ici, ce n'est pas Paul qui résume, c'est Luc. Donc, vous voyez, il n'était pas intéressé par les mêmes choses. Mais Paul, maintenant qu'il a corrigé le message, il va l'authentifier et de deux manieurs. Il va authentifier la foi, le contenu de la foi de ses disciples par le baptême. Donc là, il a prêché l'évangile et le texte ne le dit pas, mais ça sous-entend qu'ils ont cru à ce message-là. Donc, quelque part, la correction a été efficace. Et parfois, ça peut nous arriver à nous, hein, on vient et on corrige notre message, et lorsqu'on corrige, on change derrière. Donc il y a une vraie repentance qui nous conduit à un changement. Et c'est ce qui se passe ici. Ah ok, on ne savait pas que c'était ce Jésus, mais moi je veux ce Jésus, voyez. Et donc, voyant leur foi, on leur dit, ok, quelle est la première chose qu'on fait quand quelqu'un est converti? Premier acte d'obéissance, et dans les actes, c'est assez évident, ils crurent et furent baptisés. On voit cette phrase qui revient en permanence, ils crurent et furent baptisés, dans la foulée. Hein. Des fois, c'était quelques heures plus tard qu'on les baptisait. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Ici, ils confessent Jésus, alors ok, on les baptise au nom du Seigneur Jésus. Là encore, un raccourci, parce que Matthieu avait donné des consignes un peu plus larges. C'était au nom de qui qu'on devait baptiser? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Parce que Matthieu mettait en avant l'aspect trinitaire, l'œuvre complète de Dieu dans le salut et dans le baptême. D'accord? on est baptisé en ces trois noms. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas une prière magique, d'accord? Quand on baptise au nom du Seigneur Jésus, on peut baptiser au nom du Père, au nom du Fils ou au nom du Saint-Esprit, ce n'est pas une formule magique, d'accord? Il faut que ce soit très clair, parce qu'on va trouver d'autres formulations dans le Nouveau Testament. Et je te guéris au nom de Jésus de Nazareth. Vous le voyez dans le livre des Actes. Donc, attends, il y a plusieurs formules, comment ça marche? Non, c'est vraiment quand les disciples ont une foi profonde dans la personne de Jésus. Ils reçoivent le Saint-Esprit et donc on va les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui se fait. En fait, le baptême de Jean et le baptême de Jésus n'ont absolument rien à voir. Il y en a un, c'était une préparation, l'autre, c'est pour montrer ce qui se passe dans la réalité. C'est un symbole aussi. On authentifie la foi des croyants. Et lorsque vous faites baptiser ici dans l'Église, c'est qu'on reconnaît votre foi et donc on te baptise, d'accord? Et là, tu peux t'identifier avec toute la famille de Dieu. Regardez ce schéma. En fait, ça représente ce qui s'est passé à la croix et ce qui s'est passé dans notre vie. Lorsqu'on plonge dans l'eau, on meurt avec Christ. L'idéal, vous savez, ça serait quoi? Ce serait de vous mettre dans la terre, parce que c'est l'ensevelissement. Mais c'est un peu compliqué. Il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. Mais en fait, on met dans l'eau. Alors, il y a le baptême de purification aussi, hein, attention. Mais l'idéal, ça serait de faire dans la terre. Et donc, ça symbolise la mort avec Christ. On a été enseveli avec lui. Donc, on meurt à notre ancienne vie. Donc, vous voyez, c'est un symbole où je meurs à moi-même. Je renonce à moi, à mon péché. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsqu'on sort de l'eau, normalement, on ressuscite avec Christ. Et ça manifeste la résurrection intérieure. Je ne vis plus pour moi-même, mais maintenant, à partir de maintenant, je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Je vis pour Christ. Et ce matin, c'est un bon rappel pour vous, si vous avez été baptisé, pour qui vous vivez encore. Est-ce que vous vous souvenez de cet engagement que vous avez pris le jour du baptême? Peut-être que vous êtes éloigné. Eh bien là, ce matin, Dieu vous rappelle, souviens-toi, pourquoi tu es revenu en dehors de l'eau pour vivre pour Jésus. Allez, j'avance ici sur ce point. En fait, 1 Corinthiens 12 nous dit pourquoi on se fait baptiser, et c'est pour ça qu'on le fait en Église. Vous pourriez vous faire baptiser dans votre baignoire, mais ça n'aurait pas de sens. En fait, c'est une identification au corps de Christ, aux croyants, au peuple de Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. Donc notre baptême, c'est une image aussi du corps de notre association à Christ. On meurt avec lui, on ressuscite avec lui, mais aussi avec l'ensemble du corps de Christ. Donc vous voyez, c'est double. Enfin, il y a plusieurs symboliques derrière le baptême, mais c'est une association. Et là, cette association, vous avez vu ici, il parle de l'esprit, donc c'est le baptême de l'esprit. On a tous été baptisés de l'esprit. À partir du moment où on croit, on va revenir sur ces textes plus tard. Mais en tout cas, c'est la première authentification, le baptême. Ok ? Jusque-là, tout va bien, vous n'avez rien appris de nouveau, n'est-ce pas ? En tout cas, j'espère. Là, ça va se corser. Ça, c'est la deuxième authentification, et celle-là, je vais prendre le temps. Vous avez le temps ? Ça vous intéresse ou pas ? Paul leur imposa les mains, donc ça c'est un deuxième geste symbolique, d'accord? On impose les mains, il n'y a rien de magique, c'est symbolique. Mais c'est qu'on atteste, on authentifie, on envoie, vous voyez, les anciens imposent les mains sur les candidats anciens. On impose les mains quand on veut s'additionner, se lier avec la personne, l'authentifier, la recommander. Paul leur imposa les mains, et là, ce qui se passe, quelque chose d'étrange. Il vient de les baptiser. Donc, quand on baptise quelqu'un, l'apôtre Paul, il ne fait pas d'erreur. Hein. Il baptise des croyants qui confessent Christ. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Il leur impose les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? Phénomène étrange, mais déjà vu. Ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Donc ici, il leur impose les mains et il se passe quelque chose que même Paul ne devait pas s'y attendre. En fait, ils vont recevoir l'Esprit Saint. En tout cas, s'ils ne l'avaient pas, il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce moment-là. C'est quand même étrange parce qu'on se dit, mais mince, j'ai pas l'impression que ça soit chronologiquement bon, n'est-ce pas ? On se dit qu'il y a un truc qui cloche. En fait, dans tout le livre des Actes, il n'y a que deux passages qui mentionnent ce rite en rapport avec le Saint-Esprit. Il impose les mains et il y a le Saint-Esprit, et c'est en acte 8 et en acte 19. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit systématique, que deux fois où on voit ce qui se passe ici. Alors il y a un autre cas où il y a l'imposition des mains, c'est en acte 9-17, mais c'est Ananias qui impose les mains à Paul et c'est probablement en lien avec sa guérison, donc rien à voir avec l'esprit ici. En tout cas, au verset 6, il leur impose les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et c'est ça l'os de notre texte qui a donné le titre de ce message. Do you speak in tongues? Vous savez que ce texte-là a conduit certains pentecôtistes à considérer que le baptême du Saint-Esprit était une seconde expérience et qu'elle s'authentifiait par un signe. Et le signe, il est là, le parler en langue. Je vous lis, et vous l'avez ici sous les yeux, un extrait de la confession de foi des ADD, donc les Assemblées de Dieu de France, c'est le pentecôtisme classique. Voilà ce qu'ils disent. « Nous croyons que le baptême dans l'Esprit Saint est une promesse pour les chrétiens de tous les siècles. Il est donné par le Père et le Fils et c'est là où ça cloche, et il est manifesté par le parler en langue comme au jour de la Pentecôte selon le récit du Nouveau Testament. » Alors là, en disant ça, les amis, on ajoute quelque chose aux Écritures. À mon avis, il y a un ajout qui est malencontreux. Le fait que le début de la phrase est correct, nous croyons que le baptême dans l'Esprit Saint est une promesse pour les chrétiens de tous les siècles. Ben oui, Dieu il a promis qu'il enverrait son Esprit à ceux qui croient. Donc oui, c'est une promesse, donc jusque-là tout va bien. Et ça c'est le problème, c'est le « et ». Il est manifesté par le parler en langue comme au jour de la Pentecôte. Alors comme au jour de la Pentecôte, on va voir que ce n'est pas vraiment ce qui est vécu, hein. Parce qu'on va rappeler ce qui s'est vraiment passé au jour de la Pentecôte, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le langues avec un S. En fait, pour eux, il y aurait deux catégories de chrétiens sauvés. Il y a ceux qui sont justifiés, et ceux qui sont justifiés et baptisés de l'Esprit. Et ils sont arrivés à cette conclusion. Parce que, en fait, c'est compliqué de dire à des frères dans l'Église qui ne parlent pas en langue qu'ils ne sont pas chrétiens. Hein ? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne connaît pas Dieu. En fait, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien. Donc, un chrétien a forcément l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, ça c'est dans Romains chapitre 5, verset 8. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit, il n'est pas croyant, il n'est pas sauvé. Donc, quand on a des frères autour de nous, comment on fait ? Et donc c'est là où on dit, ben, c'est une deuxième expérience qui vient s'ajouter à la conversion. Et là, c'est ici le cœur du problème lié au parler en langue. Et qui n'est absolument pas pratiqué dans le livre des Actes, et je vais vous donner des arguments maintenant. En fait, je vous rappelle à toute fin utile, chose que j'ai déjà développée dans Acte 2, que le parler en langue des actes est identifié comme de la xénolalie ou xénoglossie. Ça veut dire la même chose. Xéno, ça veut dire étranger. D'accord ? Et donc, ça veut dire parler des langues étrangères. Hein ? C'est pour ça que j'ai dit avec un S. Si vous regardez bien, relisez 1 Corinthiens, si vous avez des traductions correctes, il va bien marquer deux formes de parler en langue. Une pratique de parler en langue, ce qu'on appellerait extatique, donc la glossolalie, à ne pas confondre avec la xénolalie. Donc il y en a un, c'est parler en langue étrangères, donc des langues, ce qui se passe dans le livre des Actes, des gens qui parlent dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Absolument pas. Et donc, on voit 20 nationalités dans le livre des Actes. Et donc, dans ces 20 nationalités, ces gens, ils parlaient, et le texte dit, ils parlent dans notre langue natale. Donc, vous voyez, c'était des vraies langues. C'est pour ça que je dis avec un S, ce sont des langues étrangères. Mais il y avait une autre pratique qui se faisait, et vous allez voir que ce n'est pas seulement à Corinthe que ça se passait, mais ça se passait partout, et bien avant Corinthe. En fait, la glossolalie, c'est un phénomène qu'on ne trouve pas seulement dans le christianisme aujourd'hui. D'accord ? Il se trouvait bien avant, et Platon le décrit, et je vais vous donner quelques citations. C'est Florent Varac qui relève ça dans son dernier livre qui va sortir là, d'ici quelques jours. Le livre s'appelle « Saint-Esprit et dons spirituels ». Voilà ce qu'il relève. Il dit « Mathorine », donc c'est un spécialiste des langues, a étudié ce phénomène en dehors, donc le phénomène de la glossolalie, hein, parce que la xénoglossie, c'est un vrai miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc quand on parle du parler en langue comme dans les Actes, si on lit ici, hein, c'est marqué, comme au jour de la Pentecôte, ça veut dire qu'il faudrait que ça soit exactement la même chose, donc de la xénoglossie. Moi, j'aurais absolument aucun problème à ce niveau-là, mais ce n'est pas ce qui se pratique dans la réalité. Dans la grande, l'immense majorité, c'est bien de la glossolalie qui a lieu et non pas de la xénoglossie. Les tests ont été faits et c'est plus à démontrer aujourd'hui. Écoutez bien ce que dit Mathorine. Il dit 3 dialogues différents de Platon. On est bien avant les Corinthiens, là. Font référence à un speech extatique, inintelligible, tout comme Virgile dans l'Énéide. La glossolalie est apparue dans les religions à mystère éleusinienne, dionysiaque et orphique, ainsi que dans les anciens cultes de Mithra et d'Osiris. Les Sibylles et les Pythies étaient également connus pour leur pratique de la glossolalie et de la parole extatique en état de transe. Parmi d'autres pratiques extatiques et chamaniques, on trouve également la glossolalie. Et si vous avez connu une jeune fille étudiante qui était dans les mouvements ésotériques, qui est venue cette année dans notre église, elle nous a expliqué ce qu'elle faisait aussi avant de se convertir. Et sa grande surprise, quand elle est allée une fois dans une église, elle dit « Ah, mais c'est exactement la même chose que je faisais avant !» Et alors là, ding ! Vous voyez là, elle a mis ses deux alertes en marche. Mais ce n'est pas fini. Et là, ça, quand on lit ça, les amis, je vous fais la lecture de ce que Mathorine recense. Voilà ce qu'il dit. La glossolalie, c'est-à-dire un parler dans des langues non identifiables, se recense chez les Indiens d'Amérique du Nord. Donc c'est les chamans, hein. Enfin animistes. Les Indiens Haïda du nord-ouest du Pacifique, les chamans du Soudan, le culte Shango de la côte ouest de l'Afrique, le culte Chago de Trinidad, le culte Vaudou d'Haïti, les aborigènes d'Amérique du Sud et d'Australie, les Esquimaux des régions subarctiques d'Amérique du Nord et d'Asie, les chamans du Groenland, les diaks de Bornéo, le culte Zor d'Éthiopie, les chamans de Sibérie, les Indiens Chaco d'Amérique du Sud, les Curanderos des Andes, les Kinda du Soudan africain, les chamans Tonga d'Afrique et les moines tibétains. Mes amis, cette longue liste incite à la prudence. Les langues parlées par les chrétiens devraient se différencier nettement de celles parlées par les païens. Même les théologiens charismatiques ne sont pas d'accord avec ces affirmations du pentecôtisme. Je vous lis ici Wayne Grudem. Il dit « Dans la pensée de Paul, le baptême dans le Saint-Esprit avait lieu au moment de la conversion. Pour cette raison, donc c'est un charismatique qui parle ici, hein, mais un théologien. Excellent théologien d'ailleurs. Pour cette raison, le baptême dans le Saint-Esprit doit faire référence à l'activité du Saint-Esprit au début de la vie chrétienne, lorsqu'il nous communique une nouvelle vie spirituelle par la régénération, nous purifie et marque une rupture nette avec la domination et l'amour du péché, la phase initiale de la sanctification. Le baptême dans le Saint-Esprit désigne donc tout ce que fait le Saint-Esprit au début de notre vie chrétienne, ce qui écarte toute possibilité de référence à une expérience postérieure à la conversion, comme le voudraient les pentecôtistes. C'est assez clair. Je vais faire quand même quelques remarques qui sont pour moi des constats. Et donc ce sont des vérités. La première, c'est que dans les actes, la réception du Saint-Esprit ne suit pas un modèle précis. Et c'est pour ça que ça nous trouble. C'est pour ça que ça nous trouble. Je vous ai ici référencé les quatre endroits où il y a une manifestation du parler en langue, ou plutôt une manifestation de l'esprit, et vous voyez que ça se fait dans des ordres différents. On a le baptême d'eau à la Pentecôte, ils se font baptiser, et puis ensuite il y a la réception du Saint-Esprit, ça vient après. Chez les Samaritains, il y a d'abord le baptême d'eau, et ensuite, il impose les mains et il y a la réception du Saint-Esprit. Avec Corneille, c'est l'inverse qui se passe. Il y a d'abord la réception du Saint-Esprit et ensuite, il y a le baptême d'eau. Et puis, dans notre cas, il baptise, il impose les mains et là, il va y avoir la réception du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ordre, en fait. C'était une période particulière, une période transitoire. Et c'est pour ça que c'est dangereux de définir des normes dans le livre des Actes. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début du message, c'est descriptif et non pas prescriptif. Maintenant, je vais vous donner deux textes, il y en a beaucoup d'autres, mais deux qui sont prescriptifs, eux. D'accord ? Et donc, c'est Éphésiens. Éphésiens, vous voyez, on est à Éphèse, et donc, il va clarifier, il va bétonner cette doctrine, parce qu'il pouvait peut-être y avoir un doute. Regardez ce qu'il dit. Paul, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, écoutez, la parole de la vérité, ok, on est dans l'évangile là, l'évangile de votre salut, en lui, donc en quoi ? En Christ, et en l'évangile, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelles sont les conditions ici pour recevoir le Saint-Esprit ? Il faut croire, recevoir ou croire, ça veut dire la même chose. On doit croire en la vérité, en l'évangile. Et c'est ça qui se passe. On est scellé du Saint-Esprit à partir du moment où on croit. On enfonce le coup, toujours l'apôtre Paul, Galates chapitre 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi ? Êtes-vous tellement insensé, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain ? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Et vous voyez ici la réception de l'esprit, elle est identifiable à la foi. Vous avez reçu l'esprit en écoutant avec foi. Donc vous voyez, ce n'est pas une pratique à côté, annexe ou secondaire. On reçoit l'Esprit au moment où on croit. Et je pense que l'Esprit, il est bien à l'œuvre avant. Mais là, on vient être baptisé du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient nous convaincre, donc il est déjà à l'œuvre. Il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et au moment où on adhère à la foi, où on voit en Jésus notre Sauveur, là, le Saint-Esprit vient. Et il ne se passe pas forcément quelque chose. Il peut se passer quelque chose, mais pas forcément. Et là, vous savez, on est une centaine ce matin, on pourrait prendre chaque témoignage, il n'y en a pas un seul qui dira la même chose. C'est unique. Et on vient tous avec des motifs différents, mais le résultat est là. On aime Jésus, on aime ses Écritures, on aime se retrouver ensemble. En fait, ça, c'est le fruit du salut et le fruit qu'on est censé et qu'était censé manifester ses disciples. J'ai recensé également cette haute vérité. Dans les actes, la manifestation du parler en langue est minoritaire lors des conversions. Là, j'avais trouvé un certain nombre et en fait, j'ai révisé ma copie. Il y a beaucoup, beaucoup plus de textes où on mentionne des conversions dans le livre des actes. Et pas des petites conversions, mais des grands nombres de convertis. Et si vous constatez ici, il y a plus de 25 cas de conversion dans le Nouveau Testament. Et parfois, il y en a 3000, 2000, un grand nombre, des multitudes qui se convertissent. D'accord ? Et on voit seulement à trois fois de la manifestation du parler en langue. Premier cas, acte 2, les 120. D'accord ? Ça touche 120 personnes. Ensuite, acte 10, Corneille et ses amis. Un groupe, mais quelques personnes. Et enfin, acte 19, 12 hommes. Voilà les manifestations du parler en langue dans le livre des actes. Maintenant, je vous pose la question, statistiquement. On en vient là. Qu'est-ce qui est normatif ici ? Qu'est-ce qui est normatif ? Qu'est-ce qui devrait être normatif ? Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou d'avoir fait Mathsup, Mathsp pour voir que statistiquement, c'est quand même plus logique de dire « Ah, alors la plupart du temps, eh bien, il n'y a pas de parler en langue. » Pourquoi on ferait une norme de ces exceptions ? On n'est pas dans le wokisme ici, hein ? Pourquoi prendre les trois cas qu'on voit dans le livre des actes, et on voit que ce n'est pas toujours agencé de la même manière, pourquoi prendre ces trois cas, ces trois exceptions ? Et là, je m'adresse à vous qui prenez les textes des Écritures. Soyez logique, en fait, tout simplement. Je ne remets pas en question l'authenticité de votre foi, même votre pratique. Mais si il doit y avoir parlé en langue, alors il faut le faire comme dans le livre des actes. Et c'est un parler en langue terrestre. Et ça, c'est un vrai miracle. Ça ne peut venir que de Dieu, les amis. Par contre, la glossolalie, ça ne vient pas forcément de Dieu. La preuve, c'est tous les gens qui la pratiquent. Allez, on conclut ici avec trois applications. Première application, cherche Dieu dans la Bible et non dans tes expériences. J'entends régulièrement cette expression. Pendant ce culte, pendant ce temps de louange, dans ce concert, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Peut-être même que vous l'avez dit. Je ne remets pas en question ce que vous avez vécu, attention, hein. Et je pense que le fait qu'on se sente bien pendant un culte, c'est super. D'accord ? Donc je ne remets pas en question l'émotion en elle-même. Mais c'est l'association que je fais avec l'émotion. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez dans quel cas c'est ça ? Vous l'utilisez pour le culte ? Matthieu chapitre 18. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est un cas de discipline. Est-ce que vous pensez, si vous êtes celui qui est discipliné, est-ce que vous pensez qu'il y a la présence de Dieu dans la réunion ? J'ai vécu plusieurs fois, alors pas forcément pour moi, mais je peux vous dire que vous ne ressentez pas vraiment la présence de Dieu. Vous tremblez comme une feuille. Et pourtant, Dieu est là. Lorsque vous êtes à l'hôpital, lorsque vous êtes malade, est-ce que Dieu n'est pas là ? La Bible dit clairement. Je suis avec vous tous les jours. Donc ce n'est pas ce qu'on ressent, les amis. Ce n'est pas ce qu'on ressent. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Les expériences, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais elles n'authentifient absolument pas. Elles ne prouvent rien, en fait. Vous savez, ce matin, on écoutait la musique à fond dans la voiture avec ma fille et on aime beaucoup Queen. Il vaut mieux pas écouter les paroles, hein. Mais je me sentais bien dans la voiture, je ne comprends pas les paroles. C'est juste l'émotion. Mais c'était super. On chantait à tue-tête. We are the champion, my friend. Mais oui, c'est vrai. Non. Je vous lis de Pierre. Une expérience que l'apôtre Pierre a vécue. On ne pourra pas faire mieux, hein. Je pense pas en tout cas, sinon dites-le moi. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il parle de la transfiguration. On peut pas faire mieux là, je crois que c'en est dans le graal de l'expérience charismatique. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tenons, verset 19, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre a vu la puissance de Christ manifestée au travers de nombreuses guérisons, de résurrections, de miracles époustouflants. Il était aux côtés de Jésus lors de la transfiguration. Il a vu Christ en gloire. Il a réellement vu la splendeur de Christ. Il a vraiment entendu la voix du Père. Et il reconnaît avoir vu ces choses. Il les authentifie. Et pourtant, malgré l'authenticité de cette expérience inouïe, il dit que quelque chose est plus sûr, plus certain, plus fiable. Et c'est quoi ? La parole prophétique, l'Écriture. Plus fiable. Moi, je trouve ça complètement fou. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à décrire mes expériences comme étant plus fiables qu'un écrit. Eh bien, Pierre dit exactement l'inverse. Face à l'expérience, même la plus extraordinaire, l'Écriture prime. C'est ça que tu dois rechercher. Deuxième application, cherche à vivre le fruit de l'esprit et non à vivre une seconde expérience. On cherche à vivre des dons, parce qu'on se dit, waouh, quelque part, ça nous valorise. Quand on a un problème identitaire, les amis, c'est ce qu'on va chercher. Et je pense que les Corinthiens, c'était les champions, toute catégorie. Ils cherchaient les miracles, ils cherchaient les dons qui épatent la galerie quelque part. Parce que, après on peut regarder les autres, moi, j'ai un don extraordinaire, tu l'as pas celui-là. C'est vrai que quand on a le don de service, des fois c'est pas très... Mais, vous voyez l'arrogance qu'il peut y avoir derrière ? La Bible ne nous encourage pas à chercher des dons, mais l'amour. Le don par excellence, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, tu peux exercer tous les dons que tu veux. C'est peanuts, ça ne vaut rien. C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes. Je vous lis ici John Stott dans son livre Baptisé de l'Esprit, non, je ne sais plus comment il s'appelle le livre déjà. Bref, je le retrouverai si vous voulez. Mais j'ai noté ce qu'il dit. Gardez-vous de vouloir ramener à un stéréotype les expériences spirituelles de chacun ou même d'imaginer que le Saint-Esprit veut nécessairement donner aux autres ce qu'il vous a accordé. Ce sont les grâces spirituelles qui doivent être communes à tous les chrétiens, non les dons spirituels ou les expériences spirituelles. Ce sont les grâces spirituelles qui doivent être communes à tous les chrétiens, non les dons spirituels ou les expériences spirituelles. En un mot, que votre expérience débouche sur la louange et l'adoration, mais que vos exhortations se font non sur vos expériences personnelles, mais sur l'Écriture. En particulier, je vous prie instamment de ne pas vouloir imposer aux gens l'idée d'un baptême de l'Esprit, second événement décisif venant après la conversion et entièrement distinct d'elle, idée que l'Écriture ne justifie nullement. Au lieu de cela, ne cessez pas de nous adjurer comme l'Écriture nous en adjure constamment, de ne pas attrister ou éteindre le Saint-Esprit, mais bien au contraire, de marcher selon l'Esprit et d'être rempli de l'Esprit, de ses exhortations, nous serons toujours reconnaissants. Voilà ce que l'on doit rechercher, mes amis, à marcher par l'Esprit, à vivre par l'Esprit avec l'Écriture, mais à jamais dissocier les deux. Et je vais m'arrêter là. Plus d'une heure. Il fallait s'y attendre. On va prier. Je ne sais pas si ce message vous a interpellé. J'ai essayé d'user de tact, mais parfois je m'emporte. Je m'en excuse par avance. Mais en tout cas, ce que je veux vous encourager à faire, si vous n'êtes pas convaincu par le message, alors vous prenez votre Bible et allez piocher dedans. Moi, j'ai mis des heures à vous faire ce message. Pour ça, j'avais beaucoup trop, il m'aurait fallu encore une demi-journée pour élaguer, pour synthétiser. Mais je voulais que vous ayez quand même un petit peu de nourriture ce matin. J'espère que ça vous a nourri et que vous allez chercher Dieu et pas l'expérience.